Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Jean-François
Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, messieurs, bien, un sondage, Jean-Marc Léger, là, un sondage léger ce matin, remontée du bloc. Jean-François Lisée, c'est pas vraiment surprenant, là.
C'est pas surprenant, mais c'est pas une vague non plus. Hein? C'est une montée de 3 points.
Une vaguelette.
Une vaguelette. On va voir si ça continue ou si ça s'amplifie. Évidemment, ça signifie que chez les francophones, l'avance du bloc sur le Parti libéral est considérable. Parce que les libéraux ont énormément de partisans chez les non-francophones. Et ça fait la différence dans un certain nombre de comtés. Par exemple, à Gaspé, la ministre Le Boutillier semble être menacée par le Bloc. Il peut y avoir, par exemple, dans Sherbrooke, est-ce que Ensaf Haïdar, la candidate du Bloc, va réussir à déloger le libéral sortant? Bon, il y a peut-être quelques gains que le Bloc peut faire. On sait qu'à Trois-Rivières, c'est aussi assez serré. Donc, le vote, non seulement se déplace un petit peu du côté du Bloc, mais les électeurs du Bloc sont plus motivés à aller voter parce qu'ils sont fâchés. Alors, donc, on va voir comment ça va se traduire en nombre de sièges lundi prochain.
Thomas, là, le Canada anglais, on dirait qu'il se réveille puis se rend compte qu'effectivement, il y a eu une gaffe majeure qui a été commise lors du débat.
Oui, 5 jours plus tard, puis dans The Gazette aujourd'hui, le seul vraiment bon papier que j'ai trouvé en langue anglaise là-dessus, écrit par André Pratt, l'ancien sénateur et ancien journaliste au journal La Presse. Il explique à ce public canadien anglais, commençant à Montréal, mais vu que The Gazette fait partie de Post Media, il y a fort à parier que ça va apparaître à travers le Canada. Il explique en long et en large pourquoi la question était si offensante et il le décortique. Il donne finalement aussi la question, commençant avec une affirmation que je vais me permettre de donner en anglais que je traduirai. Elle s'adresse donc, Madame Curl s'adresse à M. Blanchette, et elle lui dit ceci: You deny that Quebec has problems with racism. Vous niez qu'il y a des problèmes de racisme au Québec. Or, Yves-François Blanchette est un des rares politiciens de haut niveau ici au Québec à avoir regardé droit dans les caméras et dit: Non, non, comme partout ailleurs au Canada, aussi au Québec, on a des problèmes de racisme systémique. Donc, c'est exactement la mauvaise question à exactement le mauvais gars. Donc, ça, ce bout-là, d'une manière intéressante pour moi, mérite vraiment réflexion parce que, pour reprendre ce que Jean-François disait il y a 3 secondes, il y avait un comité qui a veillé à cette question-là. Donc, on parle de journalistes, on parle de vérification des faits. Il n'y en a pas un sapristi qui a dit: Attends, donne-moi 5 minutes, je vais aller en ligne vérifier si Blanchette a déjà parlé de ce sujet-là.
Non, mais Tom, ce n'est pas nécessaire de vérifier. C'est des Québécois et en plus, c'est des séparatistes. Donc, il n'y a aucune vérification nécessaire. On le sait qu'ils sont racistes, tu comprends?
Écoute, c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire. J'ai vécu la chose suivante. Après que Legault ait suggéré qu'on ne vote pas libéral, NPD et Vert parce qu'ils sont trop centralisateurs et qu'on regarde du côté et de Autour et de Blanchette, moi, je fais de la radio au Canada anglais et il y a ce qu'on appelle des spinners, hein, les spin doctors de chaque parti. Donc, moi, je vais être sur un panel puis je vais être avec quelqu'un qui spin pour les libéraux, un autre pour les conservateurs et ainsi de suite. Tu vois pas que le spin, le soir même de cet appui de Legault était: Ah, ça va pas être très populaire au Canada anglais, on n'aime pas trop le Québec. Ça, c'était le spin version bêta. Le lendemain, j'avais le droit à la radio à Toronto, à la version raffinée, livrée par un gars de chez National, de Relations publiques, et qui est un libéral spinner. Il a dit ceci. Oh, il dit, vous savez, hein, l'appui de Legault prouve jusqu'à quel point Erin O'Toole est faible pour se tenir debout face au Québec. Et là, c'est pour ça que ça prend quelqu'un de fort pour mettre le Québec à sa place, comme Justin Trudeau. Donc, c'est drôle, j'ai jamais entendu ça répété au Québec par les libéraux.
Oui, ben oui.
Mais ça, c'est le spin qui se donnait au Canada anglais.
Mais Thomas, tu disais tantôt, enfin, le Canada anglais se réveille 5 jours après le débat.
Oui.
Sauf que, bon, c'est quand même André Pratt qui écrit ce texte-là. C'est un francophone, un Québécois francophone.
Et fédéraliste. Mais et c'est une œuvre de pédagogie. Parce qu'il y va avec un bistouri, puis il y va avec la nette intention de réveiller le monde, qu'ils essaient de comprendre. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais le chef de l'opposition officielle et le chef du NPD. Tournée pré-campagne de 2015, je suis en train de faire une visite à travers le Canada, une rencontre organisée avec des jeunes leaders de communautés culturelles minorités visibles à Toronto. Bonne rencontre, pub bien en vue, milieu de la journée, très peu de monde autour. Une douzaine de personnes, à peu près la taille de ce qu'on appelle un focus group. Ça donne vraiment une appréciation de ce que les gens pensent. Et une jeune femme, d'origine sud-est asiatique, me regarde et dit, « Oui, mais de toute façon, au Québec, c'est très raciste. » Puis je la regarde, je fige, et je dis, « Mais vous savez, il y a 8,5 millions de Québécois. Il y a à peu près autant d'opinions au Québec, et un éventail de choix d'opinions, qu'il y a dans toute autre place au Canada. Tu trouves pas que ton affirmation même, qu'il y a les Québécois sont racistes, est en soi du préjugé et du racisme parce que vous êtes en train de faire une affirmation généralisée sur 8,5 millions de personnes. Elle a figé et elle a dit, ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, s'il n'y a pas de dialogue, si on n'essaie pas de corriger le tir, et c'est ça que j'apprécie dans l'effort de Pratt aujourd'hui, il essaie de corriger le tir, mais il n'y va pas avec un massue. Il y va avec une bistouri et je trouve que le coup est bien réussi et bien ressenti. Ça ne changerait pas grand-chose. Mais Trudeau, pour reprendre la question de cette élection-ci, Trudeau est le grand perdant parce qu'on a vécu en 72 heures une montagne russe. Mercredi, dans le débat en français, Trudeau varge sur Blanchette, Capitaine Canada enfile son cap et il dit « Vous n'avez pas le monopole, machin truc ». Ça, c'est très, très, très bien joué au Canada anglais, à tel point que dans les sondages Nanos, dans les 48 heures après, on a eu un bump pour Trudeau. Le lendemain, un Erin O'Toole tout à fait raisonnable se présente, s'explique bien, malgré les questions loadées. Lui, se tire son épingle du jeu. Bang! Le lendemain, le soir même, c'est juste Blanchette qui était sur la question. Le lendemain, les conseillers de Trudeau ont dû lui dire, « Boss, t'es dans la chenoute, là. Non, on est vraiment dans la chenoute. T'as rien dit hier soir avec cette question-là. Faut que tu corriges un peu le tir. » C'était déjà trop tard. Trudeau, je peux juste terminer en disant ceci. Pour cette élection-ci, les libéraux comptaient ravir 10 à 15 sièges au Bloc, disant que c'est un addon, c'est un fluke, ce qu'ils ont fait en 2019. On s'en va chercher leur siège, puis ça va nous donner notre nouveau gouvernement libéral. Là, ils vont juste à peine garder leur siège sur l'île de Montréal. Tout le reste, oublie ça, c'est Bloc et à quelques places peut-être autour.
Jean-François, il y a un député conservateur qui m'a écrit, il me dit, je suis très, très, très déçu, M. Martineau, je pensais que vous alliez voter conservateur, puis finalement, vous avez annoncé d'avoir voté Bloc. J'imagine qu'il y a beaucoup de députés conservateurs qui ont une photo de Mme Curl dans leur bureau, puis qui lancent des fléchettes, là.
Oui, ils lancent des fléchettes. Alors que chez les bloquistes, ils ont la photo, puis ils mettent des petits lampions autour, puis ils font des salamalèques pour dire qu'ils sont très contents. Ils vont peut-être lui donner le prix du patriote de l'année, la personne qui a le plus aidé l'indépendance cette année. Alors, écoute, juste revenir un petit peu sur le Canada anglais. Hier, Lise Bissonnette, qui est quelqu'un qui suit ces choses-là depuis longtemps, dit qu'en 30 ans de carrière, elle n'a jamais vu le niveau de mépris qu'elle voit maintenant dans la presse, les médias canadiens-anglais. Puis elle a attiré l'attention sur une chronique de Ian Brown, qui est un journaliste chevronné du Globe and Mail, qui a écrit après le débat en anglais pour dire que deux choses, que Yves-François Blanchet, qui n'avait pas d'affaire là, avait l'air d'un Jean-Paul Belmondo ivre. Ça, c'était sa caractérisation. Et que, en parenthèse, simplement dire que le caractère distinct du Québec ne pourrait pas survivre une génération sans la protection enveloppante du Canada. Alors donc, un des journalistes chevronnés du Globe and Mail qui écrit que si le Québec était indépendant en une génération, il ne serait plus francophone parce que c'est le Canada qui fait en sorte que le Québec survive dans son caractère distinct. C'est tellement extraordinairement imbécile qu'on se dit, mais comment... c'est même pas... Bon, c'est sûr que c'est du mépris national, mais c'est tellement pas intelligent. Comment ça se fait que des gens très intelligents sur tous les autres sujets, quand t'arrives sur le Québec, c'est comme s'il y avait une lobotomie, puis ils pouvaient pas écrire sur le Québec sans dire des âneries comme ça. Alors, c'est quand même assez extraordinaire.
Et cela dit... Oui. Oui, Jean-François, veux-tu continuer là-dessus? Parce que je pense, après, là, tu as une question à poser à Thomas concernant le cadre financier du NPD.
Oui, ben, c'est ça. Écoute, c'est parce que...
C'est ma réponse est prête. Hein?
juste rappeler qu'à l'élection où Tom aurait dû devenir premier ministre, OK? Il s'est dit, pour devenir premier ministre, il faut que je ressemble le NPD. Tout le monde déteste les déficits. Tout le monde pense que le NPD est dépensier. Alors moi, je vais dire, il y aura pas de déficit sur un gouvernement NPD. Puis là, le jeune Justin Trudeau, lui, du parti qui avait coupé, il dit, hey, moi, je trouve que ça fait une bonne idée, les déficits. Puis tout le monde dit, ben, c'est bien rafraîchissant, ça, Justin, tu dis qu'il y a des déficits, on va voter pour toi. Alors, cette année, le cadre financier du NPD n'est pas du tout de la saveur Tom Mulcair. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait du cadre financier.
Ben moi, ça va avec le reste de la campagne de M. Singh, parce que si tu as tellement d'argent que tu ne sais pas quoi en faire, arrête de t'inquiéter, parce que Jagmeet Singh sait quoi en faire avec ton argent, parce qu'il va te taxer. Alors, il a déjà dit qu'il va taxer les riches, taxer les milliardaires. Alors, voilà que samedi, il a annoncé 215 milliards de dollars de nouvelles dépenses par-dessus les déficits records de Trudeau. Et il a dit qu'il va financer ça en taxant les ultra-riches. Je me suis dit, mais il y a combien de milliardaires au Canada? Dépendant qu'on compte en Américains ou Canadiens, on dénombre environ 47 milliardaires au Canada. Donc, pour pouvoir boucler son budget, il va être obligé de faire contribuer chaque milliardaire canadien 1 milliard de dollars chacun pour chacun des 5 ans de son budget. Et là, le tour sera joué. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Les milliardaires vont payer pour ces promesses-là. Parole de Jagmeet Singh.
Bon, on dirait que tout le monde maintenant présente un cadre financier avec plein de dépenses. Michel Girard, dans le Journal de Montréal, Jean-François, écrit que même les conservateurs, là, sous un gouvernement conservateur, après 4 ans, la dette serait de 1%, il y aurait une différence de 1% dans la dette nationale avec un gouvernement libéral. Donc, ils sont aussi dépensés que les libéraux.
Ben, ils sont un peu moins dépensés que les libéraux. Évidemment, la question, c'est est-ce que notre hypothèque nationale va être encore soutenable, c'est-à-dire le rapport de la dette par rapport à notre richesse, là, le rapport dette-PIB. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans le cadre financier des conservateurs, c'est qu'ils disent on va revenir à un déficit zéro en 7 à 10 ans. Comment? Grâce à une croissance économique soutenue. Ah bon? Et comment cette croissance va se faire? Ben, c'est parce que on va remettre des investissements majeurs dans le secteur de l'énergie, qui est un code pour le pétrole. Alors donc, l'essentiel du plan, c'est d'augmenter la production pétrolière en Alberta puis en Saskatchewan. Puis s'il n'y a pas ça, ben non, ça marchera pas leur affaire. Donc, et comme l'Agence internationale de l'énergie a dit que si on veut éviter des catastrophes météorologiques majeures, il faut immédiatement arrêter d'augmenter l'exploitation du pétrole, ben, le programme de M. O'Toole, c'est de faire le contraire de ce que les experts nous disent qui est essentiel pour sauver la planète. Alors, j'ai un doute.
Mais moi, je vais revenir justement sur une réalité. C'est que cette élection-ci est en train de prouver qu'on peut jamais tout prévoir au début d'une campagne. Qui aurait cru que Maxime Bernier serait à 6 voire 7 % du vote au national. Monsieur Bernier a de vraies chances de battre le conservateur en Beauce et revenir à la Chambre des communes, ce qui annonce des années d'amusement. Il y a des gens qui sont dans cette élection-là. Jean-François a mentionné Trois-Rivières tantôt. Je vais me permettre de mentionner parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et que j'apprécie particulièrement. C'est le candidat bloquiste René Villemur, qui est un expert en toutes les questions d'éthique. Et quoi de mieux que mettre quelqu'un qui est expert en éthique à la Chambre des communes? Ils en ont drôlement besoin. Les libéraux ont une tendance historique de regarder les électeurs du NPD à quelques jours de l'élection, comme mettons aujourd'hui, et dire « oui, on vous a déçu sur des questions importantes pour les progressistes comme le changement de notre mode de vote de scrutin. On a promis des changements démocratiques. Oui, on a foiré avec les changements climatiques. On n'a rien fait finalement. On a acheté un pipeline. Mais vous pouvez pas voter Singh. Ça va diviser le vote. Puis, comme on a le droit à tout, le vote nous appartient. Les pauvres conservateurs n'ont jamais rêvé qu'ils allaient être obligés de faire le même appel aux électeurs de Maxime. Vous pouvez pas diviser le vote. Venez voter pour Aaron. Ça va être le closer de O'Toole. Puis ça gagne. Personne n'a prévu ça.
Effectivement, si Maxime Bernier est élu, ça va être assez divertissant au cours des prochaines années. Merci beaucoup, messieurs.
Salut.